Bonjour mon cher Fabrice Drouel.
Aujourd'hui vous avez du nez.
Exactement, puisqu'aujourd'hui nous allons monter au-delà d'ailleurs de 2000 ans d'histoire. Nous parlerons d'un événement qui s'est produit 30 ans avant Jésus-Christ, le suicide de Cléopâtre. Qui voudra connaître la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Blaise Pascal. D'histoire. Trente ans avant notre ère, à Alexandrie, au moment où les légions d'Octave entraient dans sa capitale, Cléopâtre décidait de s'y suicider plutôt que d'être capturé par les Romains. Après s'être rendue une dernière fois sur la tombe de son amant, Antoine, elle avait demandé à deux servantes de la baigner, de la farder et de la vêtir de ses habits royaux, avant de se faire mordre par un serpent dissimulé dans un panier de figues. C'est ainsi, écrit Plutarque, qu'est morte à 39 ans la dernière souveraine des 33 dynasties qui avaient régné sur l'Égypte pendant 3000 ans. Cléopâtre, qui était entrée dans l'histoire 17 ans plus tôt, en se cachant dans un tapis pour pouvoir rencontrer Jules César.
Il semble que quelqu'un m'apporte un présent de la part de la reine Cléopâtre.
Qu'on me l'amène, Flavius.
Tu es celui qui apporte le présent de Cléopâtre ? Alors pose-le à terre et va-t'en.
Le tapis semble inoffensif.
J'ai reçu l'ordre de ma reine de remettre son présent à César en personne et à lui seul.
Je trouve que l'on peut mieux juger les qualités d'une marchandise quand on examine le revers d'abord.
Salut, ô Cléopâtre, divine parole russe et rare, bien-aimée de la lune et du soleil, fille d'Isis, souveraine de la haute et basse Égypte, reine.
Catherine Salle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, maître de conférences à Paris-Nice-Nanterre et vous avez dirigé un magnifique Larousse des civilisations antiques dont tout un chapitre est consacré à Cléopâtre qui est à la fois la dernière et sans doute la plus connue des souveraines d'Égypte. Tout le monde a entendu parler de ses amours avec Antoine, avec César, de son suicide et à plusieurs de cette scène extraordinaire que l'on vient d'entendre, le jour où en 47 avant Jésus-Christ, elle rencontre Jules César en se cachant dans un tapis. Pourquoi fallait-il qu'elle se cache ?
Parce que Jules César s'était allié en quelque sorte avec le frère de Cléopâtre, qui était un tout jeune homme, 14-15 ans, mais qui était poussé par les eunuques qui étaient autour de ce jeune homme, qui était donc roi en même temps que Cléopâtre. C'était dans la dynastie égyptienne, le frère et la sœur sont rois et reines.
Et lui, c'était Ptolémée XIII.
C'est ça, Ptolémée XIII. Et Cléopâtre, donc, voulait arriver directement auprès de César. Et elle savait que son frère allait tout faire pour l'en empêcher. Par conséquent, elle a eu cette idée de partir secrètement du port d'Alexandrie en étant enroulée dans un tapis que l'on a apporté sur le bateau de César et qui s'est déroulé en montrant à César cette femme irrésistible.
Oui, effectivement, il ne va pas résister longtemps. Alors, tous les deux, le frère et la sœur, Cléopâtre et Ptolémée, ont régné sur l'Égypte, mais ils appartiennent à une dynastie qui n'est pas égyptienne. Ils ne descendent pas des pharaons.
Non, ils ne sont absolument pas égyptiens. Ils sont macédoniens puisque l'Égypte, à l'époque de Cléopâtre, et gouverné depuis trois siècles par la dynastie descendant d'un des généraux d'Alexandre qui s'appelait Ptolémée Lagos et par conséquent ses descendants les Lagides donc ils portent presque tous le nom de Ptolémée et les femmes presque toutes le nom de Cléopâtre règnent jusqu'à la mort de Cléopâtre en moins 30 avant notre ère.
Alors César va tomber dans les bras de Cléopâtre, on dit qu'elle était très belle. Est-ce que c'était exact, Catherine Salle?
Plus tard,
malgré son nez, parlait Pascal 1600 ans.
Oui, mais le
après.
Nez, effectivement, les Monet montrent un nez assez important. Donc, c'était pas une invention de Pascal. Plus tard, nous dit qu'elle était belle, mais pas extraordinairement belle, mais qu'elle avait un charme qui captivait absolument tous ceux qui l'approchaient, et en particulier une voix absolument irrésistible, et que tous ceux qui l'entendaient parler tombaient amoureux d'elle.
Et alors une immense culture aussi.
Une immense culture, parce qu'elle est grecque, bien entendu, enfin macédonienne, c'est-à-dire grecque, culture grecque peu complète, mais elle est la première souveraine d'Égypte à vouloir parler les langues de ses sujets. Elle est la première à parler l'Égypte, non seulement l'égyptien proprement dit, mais toutes les langues locales. Et elle avait appris toutes ces langues, même celles d'un peuple très mystérieux qu'on appelle les troglodytes, qui vivaient au bord de la mer Rouge. Elle connaissait toutes ces langues, ce qui fait qu'elle s'adressait à ses sujets directement dans leur langue.
Et elle vivait quand même, elle parlait grec, je crois, dans son palais, mais enfin, elle avait accepté, intégré toutes les coutumes et la religion égyptienne.
Oui, c'est d'ailleurs le cas de tous les souverains lagides qui, au moment des fêtes typiquement égyptiennes, c'est-à-dire les fêtes liées, par exemple, à Isis, qui est la grande divinité, eh bien, prenaient les attributs des pharaons de l'ancienne Égypte, et c'est ainsi que l'on a effectivement des portraits de Cléopâtre habillée comme une Égyptienne. Comme Isis en particulier, mais ce n'est pas, il ne faut pas penser qu'elle était tout le temps comme ça, c'était uniquement dans les cas des grandes fêtes égyptiennes.
Alors fasciné par Cléopâtre, Jules César va rester auprès d'elle 2 ans en Égypte, dont il découvre aussi les richesses.
Que me montreras-tu demain? Plus de blé? Ce que j'ai déjà vu pourrait nourrir plus de légions que Rome n'en a jamais eu.
J'en ai assez pour nourrir le monde.
Plus d'or alors? Pourquoi n'achètes-tu pas le monde? Tu dois avoir assez d'or pour cela.
J'en ai suffisamment pour payer plus de légions que même Rome n'en a jamais eu.
Plus de granit, plus de marbre, plus de millions d'esclaves pour bâtir tout ce que tu veux bâtir. De meilleures routes pour les Indes, des routes plus courtes pour l'Est. Que peut-il y avoir en Égypte que je n'ai point vu?
L'Égypte elle-même, la raison d'être de l'Égypte.
Je suis responsable de Rome.
Alexandre avait compris, lui, qu'en régnant sur l'Égypte, il régnerait sur le monde.
Et oui, à l'époque de César et de Cléopâtre, Catherine Salle, l'Égypte était sans doute le pays le plus riche de toute la Méditerranée.
Oui, très très riche par ses productions naturelles, en particulier par le blé. Et l'Égypte, tout le blé que l'on mangeait, enfin que l'on utilisait à Rome et en Italie, venait d'Égypte. Donc l'Égypte était un royaume très important pour les Romains, qui ne dominaient pas encore l'Égypte. Mais il y avait donc ce blé très important. Il y avait... pas oublier les papyrus pour faire les rouleaux dans lesquels on lisait et sur lesquels on écrivait. Il y avait bien entendu toutes les richesses des rois égyptiens qui étaient phénoménales. Il y avait des monceaux de bijoux, d'or, de pièces, et c'est vrai que tous les généraux romains de cette époque ont été tentés par l'Égypte.
Oui, elle a été très convoitée, l'Égypte. Alors Cléopâtre va suivre César à Rome, elle va y rester plus d'une année, je crois. Elle va même être présente, enfin pas peut-être pas sur place, mais en tout cas elle était à Rome lorsque César a été assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Elle n'était pas aimée du tout à Rome.
Non, c'était déjà l'égyptienne, ouais. Elle sera encore plus tard, enfin on va véritablement la connaître sous le nom de l'égyptienne, mais là elle n'était pas particulièrement aimée. D'ailleurs, elle va quitter Rome tout de suite après l'assassinat de César, et le fils qu'elle aura de César, Césarion, elle le mettra au monde, non pas à Rome, mais probablement à Alexandrie.
Oui, un fils dont la présence, dont l'existence est évidemment très importante, parce qu'il peut prétendre succéder à Jules César, mais il naît après la mort de son père.
Il naît après la mort de son père, et évidemment tous les hommes politiques de l'époque ont fait courir le bruit que Césarion n'était pas le fils de César. Alors, est-ce vrai? Est-ce faux? Ça, nous ne pouvons pas le dire, mais c'est vrai que l'on a prêté à Cléopâtre beaucoup de liaisons lorsqu'elle était à Rome.
Alors cet empire que lègue César, qui est encore une république d'ailleurs, hein, mais enfin immense comme un empire, 3 hommes vont se le partager à ce moment-là. Octave, qui va prendre tout l'Occident et gouverner à Rome. Lépide, qui va disparaître bientôt, mais qui avait toute l'Afrique. Puis alors Marc-Antoine, l'Orient, Marc-Antoine, sur lequel il gouverne à partir d'une ville qui s'appelle Tarse.
Oui, c'est-à-dire que il va prendre en main toute la destinée de la partie orientale du bassin méditerranéen, depuis la Grèce en fait, et il n'y a que l'Égypte en réalité qui est véritablement encore indépendante dans cette partie-là. Tout le reste est déjà sous domination romaine, que ce soit la Syrie, que ce soit la Palestine, que ce soit l'Asie mineure, la Grèce bien sûr, tout ceci est déjà romain. Mais Antoine va organiser cette partie-là en plaçant des légions évidemment dans toutes ces régions du monde. monde oriental, et en s'apprêtant d'ailleurs probablement à vouloir conquérir l'Égypte.
Oui, en tout cas, il va inviter Cléopâtre à venir le voir à Tars. Tars est au sud de l'actuelle Turquie. Puis alors, elle va chercher à éblouir Antoine en arrivant dans un bateau extraordinaire. On le lit dans votre livre, une poupe en or, des voiles en pourpre, des rames d'argent et un bateau sur lequel Cléopâtre reçoit celui qui va devenir à son tour son amant.
Un fabuleux festin et un fabuleux navire. Il convient à sa reine, la fabuleuse Cléopâtre.
Le nom de Marc-Antoine n'est pas exactement inconnu du monde. Tu es devenu sans conteste pour un tiers maître de Rome.
Depuis le premier instant où je t'ai vu, comme j'ai envié César. Envié au point d'en être malade. Non, ces conquêtes et ces triomphes, ni ces titres, ni ces hurlements du peuple. C'est toi que je l'ai envié.
Une vie nouvelle va commencer. À partir de cette nuit, il ne faudra plus envier César. Ni rien, jamais. Personne, tu entends ?
Extérieur, cette rencontre, vous en parlez, Catherine Salle, à Tars, première rencontre entre Cléopâtre et Antoine qui tombe, comme César était tombé déjà entre les bras de Cléopâtre.
Oui, là aussi, elle risquait beaucoup, parce que Antoine, qui avait bien entendu rencontré Cléopâtre à Rome, mais ne la connaissait pas plus que cela, avait l'intention de s'emparer de l'Égypte, et s'il avait convoqué Cléopâtre à Tars, c'était en fait pour s'en emparer, en faire une captive de Rome. Elle avait très bien compris cela. Et par conséquent, en se présentant sous l'apparence d'une reine presque de conte de fées, puisque ce bateau extraordinaire dont on parle plus tard, que uniquement d'ailleurs dirigé par des femmes, il n'y avait que des femmes qui dirigeaient ce bateau, va étonner Marc-Antoine. Marc-Antoine n'avait pas du tout la finesse de Jules César. C'était un excellent militaire, mais c'était quelqu'un de beaucoup plus rustre dans sa pensée. Et donc, cette reine absolument de légende qui lui apparaît dans ce bateau qui remonte vers Tars va le séduire. Et c'est ainsi que Cléopâtre échappe une seconde fois à une situation de prisonnière comme elle l'avait fait avec César.
Elle prend un risque parce que Antoine est marié avec Octavie, qui n'est autre que la sœur d'Octave, celui qui règne à Rome.
Tout à fait.
Mais enfin, il va quitter sa femme. Hein, parce que
oui, mais il va encore rester marié un certain temps, ouais. Mais au bout d'un certain temps, il va divorcer. Elle a des enfants, Octavie a des enfants de lui, puis Octavie est quand même la sœur d'Octave, donc c'est difficile de divorcer de la sœur du maître de l'Occident.
En tout cas, Antoine et Cléopâtre vont former un couple mythique, absolument extraordinaire. Il la suit à Alexandrie, il va s'installer auprès d'elle, il va complètement oublier sa vie à la romaine, il vit à la grecque, ou à l'égyptienne.
À la grecque, je pense, il s'habille à la grecque, il adopte les mœurs helléniques, et ils fondent avec Cléopâtre ce qu'ils appellent la vie inimitable, l'association de la vie inimitable. C'est-à-dire qu'ils vont dans tous les plaisirs possibles, de la chair, de la table, des plaisirs, des distractions, ils vont essayer d'aller jusqu'aux extrêmes limites, en entraînant avec eux toute la noblesse qui vit à Alexandrie. Et c'est une période extraordinaire pour eux, mais qui évidemment est tout à fait condamnable pour un Romain de stricte obédience.
Et puis alors ils vont avoir trois enfants ensemble, Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélénée, et puis Ptolémée Philadelphe. Et puis alors il vit de plus en plus il reste constamment quasiment à Alexandrie. Vous dites même, Catherine Salle, qu'il fait quelque chose qui va scandaliser les Romains, c'est que quand il part en campagne en Arménie pour soumettre l'Arménie, agrandir son propre territoire, au lieu de faire son triomphe à Rome, il le fait à Alexandrie.
Il le fait à Alexandrie, et Cléopâtre, parce que Césarion est aussi élevé par le couple, donc avec Césarion et les trois enfants qu'elle a eu avec Antoine, vont présider ce triomphe, qui va se dérouler d'ailleurs avec un luxe inimitable, et c'est une violation de tous les droits de Rome, qui est ici accompli.
Alors ça va scandaliser bien sûr Octave et les Romains, furieux de voir en outre Antoine abandonner à Cléopâtre toute la partie de l'Empire romain dont il était le proconsul.
Par ton autorité comme proconsul de Rome, tu vas céder à l'Égypte immédiatement les pays dont les noms suivent. Judée, Jordanie, Arménie, Phénicie, les provinces du Sinaï et d'Arabie, et les îles de Chypre et de Crète.
Tu me demandes là un tiers de l'Empire romain ?
C'est moi plutôt qui t'en donne les deux tiers.
J'ai ici les dernières volontés et le testament de Marc-Antoine. Quand il sera mort, écrit-il, quand Marc-Antoine sera mort, c'est sa volonté la plus formelle d'être inhumé dans sa chair à Alexandrie, en Égypte, parmi les Égyptiens, près de la cata égyptienne qu'il adore. La guerre.
Et c'est un autre extrait du Cléopâtre de Mankiewicz, Octave, qui harangue les sénateurs en leur disant « Mais vous vous rendez compte de ce que fait Antoine là-bas à Alexandrie ?» Et c'est vrai qu'il abandonne à Cléopâtre toute la partie de l'Empire romain dont il a la charge. Au fond, ce que voulait Cléopâtre, Catherine Salles, c'était faire d'Alexandrie la capitale du monde, reconstituer l'Empire d'Alexandre.
En tout cas de l'Orient, oui, de l'Orient. Et c'est vrai qu'elle lui a demandé tous les états dont Cléopâtre, dans l'extrait du film, parlait, et qu'il les a distribués en avance à ses enfants, à ses quatre enfants, hein, puisqu'il y avait les trois plus celui de César, et que il l'avait indiqué sur son testament. Sur son testament, il disait que la Judée devait aller à un tel, l'Arménie à un tel. Et comme c'est le moment où il y a la lutte, c'est la lutte finale en quelque sorte entre Octave et Antoine. Octave, bien entendu, trouve un malin plaisir à divulguer en plein Sénat ce testament, ce qui n'aurait pas dû être fait, hein, parce qu'un testament, ça n'a pas besoin d'être mis en public. Et lorsque les sénateurs entendent que ces conquêtes de Rome, ces pays qui sont sous domination romaine, sont distribués aux enfants de l'Égyptienne, alors là, évidemment, l'opinion publique se tourne du côté d'Octave, et Octave va avoir avec lui toute l'Italie et toute la partie occidentale qui va le suivre dans sa guerre contre Antoine.
Oui, parce qu'Alexandrie risquait d'être une nouvelle Rome, et Rome risquait de devenir la province. En fait, c'était tout l'enjeu de la guerre qui se déclenche à ce moment-là, et avec une des plus célèbres, des plus grandes batailles de l'Antiquité, qui se déroule au large de la Grèce, oui, en 31 avant Jésus-Christ, la bataille d'Actium.
La bataille d'Actium, qui est une bataille navale, et au cours de laquelle s'affrontent d'une part les navires romains qui étaient avec Antoine, plus la flotte égyptienne. De l'autre côté, les navires romains qui étaient avec Octave. C'est-à-dire qu'il s'agit évidemment d'une bataille de guerre civile, puisque des deux côtés, on a des bateaux romains. Les bateaux égyptiens n'étant finalement que des associés. Et d'ailleurs, pendant les premières heures, c'est la flotte romaine d'Antoine qui gagne des points par suite d'un incident. Agrippa, qui était l'amiral d'Octave, va retourner la situation et mettre en fuite la flotte romaine et la flotte égyptienne. Et c'est vrai que plus tard, Octave, lorsqu'il va être seul au pouvoir, ne va pas vouloir que l'on présente cette bataille d'Actium comme une bataille d'une guerre civile. Mmh. Et Virgile, bien sûr, a décrit longuement cette bataille d'Actium, et l'on voit d'un côté que des Romains avec des divinités romaines, et de l'autre que des Égyptiens avec des divinités égyptiennes, ce qui, historiquement, est complètement faux.
Cela dit, c'est quand même extraordinaire, parce que, vous le dites, Catherine Salles, dans cette bataille, la flotte d'Antoine et de Cléopâtre est supérieure à celle des Romains.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, ils ont eu l'avantage pendant la première partie de la journée. Et puis, il y a eu une fausse manœuvre de la flotte d'Antoine, qui a permis à Agrippa, qui lui était aussi un excellent amiral, de reprendre l'avantage. Mais c'est vrai que pendant la première partie de la journée, on a pensé que ce serait Antoine qui serait vainqueur. Et à ce moment-là, l'histoire du monde aurait certainement changé.
Complètement. Alors, Antoine et Cléopâtre, vaincus, s'enfuient en Égypte, pourchassés par Octave, qui va entrer plusieurs mois plus tard à Alexandrie en août 30 avant notre ère. Et alors, c'est le début d'un drame qui a inspiré des quantités d'auteurs, d'écrivains, je pense à Shakespeare, etc. C'est un drame extraordinaire qui commence d'abord, voyons la scène, Octave arrive à Alexandrie, dans la capitale de Cléopâtre, dans la capitale de l'Égypte, et puis il y a d'abord le suicide d'Antoine.
Oui, c'est vrai que ni Antoine ni Cléopâtre ne peuvent espérer beaucoup d'indulgence de la part d'Octave. Et Antoine là s'est montré le plus faible en quelque sorte. Il se trouvait que Cléopâtre s'était enfermée dans le très grand tombeau qu'elle s'était fait construire dans les jardins du palais d'Alexandrie. Et Antoine est à l'extérieur, il va vouloir se suicider, c'est-à-dire se transpercer le cœur avec un poignard, mais
il a cru on lui avait raconté une fausse nouvelle que Cléopâtre était morte.
Déjà mort, puisqu'elle était dans le tombeau. Et donc, il se tue pas sur le champ. Son fidèle serviteur le traîne jusqu'au tombeau de Cléopâtre. Le tombeau de Cléopâtre, on ne peut plus arriver à ouvrir la porte parce qu'elle était en construction et la porte apparemment ne pouvait plus s'ouvrir. Et donc, il y a cette scène tout à fait étonnante où Cléopâtre et la servante qui était avec elle dans le tombeau vont tirer par une petite ouverture, c'est pas tout à fait le corps, il est encore un souffle de vie d'Antoine, avec une corde, on va attacher une corde autour du corps d'Antoine, elles vont le tirer, mais ce sont deux faibles femmes, elles ont beaucoup de mal à la porter à l'intérieur du tombeau, et là, il va mourir dans les bras de Cléopâtre.
Et alors là, Cléopâtre, dites-vous, aurait tenté de séduire Octave, qui est
oui, parce qu'elle ressort, ça, on l'oblige à ressortir de ce tombeau, elle était arrivée à deux reprises contrecarrer un sort qui lui était très très funeste en lui-même, en séduisant Jules César et en séduisant Antoine. Et elle s'est dit, pourquoi pas faire la même chose avec le troisième, c'est-à-dire Octave. Elle était plutôt jeune quand même à ce moment-là.
Hein. 39 ans.
Et oui, elle avait, pour une femme de l'époque, c'était pas très jeune. Et Octave, en plus, était lui très jeune. Et apparemment, à ce moment-là, parce qu'après il a bien changé, mais apparemment assez pudibond. Et donc il n'a pas du tout apprécié les manœuvres de séduction de Cléopâtre, et il l'a renvoyée en lui promettant vaguement qu'elle ne paraîtrait pas dans son triomphe, qu'il allait la laisser à Alexandrie. Mais le soir même, Cléopâtre apprend qu'on est en train d'équiper le navire qui doit l'amener avec ses quatre enfants à Rome pour participer au triomphe d'Octave.
Après chaque, il faut le rappeler, après chaque victoire, effectivement, oui, des consuls, ils rentraient dans Rome avec tout leur butin,
tous les prisonniers de guerre, les rois et les reines, c'est les souverains. Alors, bon, il n'y a plus d'espoir pour elle, parce que là, elle comprend bien que c'est fini, donc elle retourne à son tombeau, elle arrive à y entrer, la porte avait dû être un petit peu réparée entre-temps, et c'est là où elle va mourir.
Restez là, toutes les deux. Vous allez m'habiller pour mon voyage. Laisse-moi voir maintenant si les figues sont toujours aussi bonnes. On dit qu'elles ont une saveur très âpre, mais qui passe très vite. Antoine. Antoine, je viens.
Et le Romain demanda, trouves-tu que ta reine a bien agi? Et la servante répondit, extrêmement bien. Ainsi qu'il convenait à la dernière de tant de nobles souverains.
Et c'était le suicide de Cléopâtre tel qu'il a été décrit par Plutarque et filmé par Mankiewicz. Le film est très fidèle, c'est un des plus célèbres péplum.
Et d'ailleurs, la plupart des tableaux, parce qu'on a beaucoup de tableaux qui le représentent aussi, le montrent ainsi, c'est-à-dire Cléopâtre mordu par un aspic qui se serait trouvé dans ce panier de figues qu'on lui a apporté, effectivement, cette nuit-là. Alors, on ne sait pas comment elle est morte. Elle est morte, et ainsi que les deux servantes qui étaient avec elle. Il y en avait une qui était déjà, Cléopâtre, et une des servantes était déjà morte lorsque les Romains ont pénétré dans le tombeau. La seconde servante était en train de mourir. Alors, on est dit, c'est l'aspic. C'est l'aspic qui était caché.
Le serpent aspic
qui était caché dans le panier de belles figues qui avaient été apportées. On a dit aussi qu'elle avait dans sa chevelure des épingles à cheveux qui étaient creuses et qui contenaient un poison très violent. Bon, on ne le saura jamais. La seule chose qu'on ait trouvée sur son corps, c'est deux petites piqûres sur l'avant-bras. C'est tout ce qu'on a trouvé. Alors, est-ce que c'était la morsure de l'aspic? Est-ce que c'était autre chose? On ne saura jamais. Bon, Octave va avoir quand même le bon goût de donner à Cléopâtre des obsèques royales. Elle sera enterrée, enfin enfermée dans ce tombeau.
Auprès d'Antoine.
Auprès d'Antoine, bien entendu, avec toutes ses richesses, avec tout ce qu'elle a. Et alors comme il ne peut pas la ramener à Rome pour figurer dans son triomphe, il va faire confectionner une statue en or de Cléopâtre, c'est-à-dire taille réelle, allongée sur un lit. Le lit va donc paraître dans la cérémonie du triomphe. Sur le bras de Cléopâtre est enroulé un aspic, cette statue, et les quatre enfants sont autour de la statue, en réel, bien entendu.
Alors, il va rentrer à Rome, parce que là, les conséquences sont considérables. Là, ce qui se passe, ça relève de l'anecdote, mais les conséquences sont terribles. C'était la dernière souveraine d'Égypte. 3000 ans de dynasties qui se sont succédées sur le trône d'Égypte. La toute dernière, désormais, pour l'Égypte, c'est simple, elle devient une province romaine.
L'Égypte devient province romaine, la plus riche province romaine. D'ailleurs, traité un peu à part hein, dans le système des provinces romaines, puisqu'il y a l'équivalent du vice-roi des Indes pour la Grande-Bretagne, c'est-à-dire un homme qui est la représentation de l'empereur romain et qui donc règne sur cette Égypte. Et donc avec l'Égypte, la conquête romaine entoure complètement le bassin méditerranéen. Il n'y a plus de troupes.
Alors, plus de pharaons, d'autant plus que Césarion, le fils qu'elle avait eu avec César, est assassiné. Et la voie est libre pour l'autre conséquence, c'est que, certes, on appelait ça un empire, mais c'était une république encore, Rome. Et ça devient un empire avec un empereur. Et qui? Octave.
Octave, qui se fait nommer prince, c'est-à-dire le premier, tout simplement. C'est le mot prince à Rome signifie le premier, et c'est le premier qui est inscrit sur la liste du Sénat. Il a toujours dit qu'il n'était que prince. En fait, il détient tous les pouvoirs, il n'a plus d'ennemis, puisqu'ils ont tous, Marc-Antoine était le dernier qui a été éliminé. L'épide en Afrique, lui, ne comptait pas. Jamais été régressif. Et donc, Octave, qui prend à ce moment-là le nom d'Auguste, c'est-à-dire celui qui est favorisé par les dieux, va abolir le nom de République. Ça qui est extraordinaire dans l'œuvre politique d'Octave, c'est que il va régner donc de, si on peut dire, de moins 30 à plus 14, ça fait quand même 44 ans, sans jamais abolir le nom de République, et en disant toujours que tout a été conservé dans cette République. En fait, il détient tous les pouvoirs.
Et un pouvoir qui va devenir d'une certaine manière héréditaire, donc c'en est fini quand même. Oui, oui. C'est pour ça que c'est un tournant immense.
Ah oui, oui, la bataille d'Axium et la mort de Cléopâtre, c'est véritablement la date du changement de régime à Rome.
Et tout ça à cause du nez de Cléopâtre, comme disait Cléopâtre. Pascal. je sais pas s'il avait été plus court ou plus long, est-ce que ça aurait changé grand chose. En tout cas, elle devient un mythe, Catherine Salle.
Ah oui, elle devient un mythe, et pas chez les Romains. Chez les Romains en parlent le moins possible. On ne prononce jamais son nom. Dans la littérature latine, elle est toujours appelée la reine étrangère ou l'égyptienne. Ce qui est une façon de la mépriser. Apparemment, Octave avait demandé qu'on ne prononce plus le nom de Cléopâtre.
Enfin, je pensais à bien au-delà de l'histoire
que cette femme qui se fait aimer quand même des deux plus grands généraux de son temps, et des généraux d'un peuple ennemi, hein. Ce ne sont pas des généraux de son peuple à elle, et quand même un exemple tout à fait exceptionnel.
Et cette femme que l'on retrouve donc dans le Larousse des civilisations antiques que vous avez dirigé, qui est un livre tout à fait magnifique, mais où il est question de beaucoup d'autres civilisations. Vous êtes également l'auteur, avec Jean-Claude Golvin, Catherine Salle, d'un bel ouvrage illustré, Voyage chez les empereurs romains, publié aux éditions Errance. C'est un livre magnifiquement illustré, avec des reconstitutions.